Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Urbania, Nouveau projet et Protégez-vous. Au programme, Quiet Promoting, quand le salaire ne suit plus la charge de travail, Ce qui nous définit, Créer la vitalité et un latté comme au café. Bonne écoute.
Quiet Promoting. Quand le salaire ne suit plus la charge de travail. Un texte de Ariane Dupuis, paru le 13 février 2023 dans Urbania. Vous vous rappelez du quiet quitting, soit l'art de faire le strict minimum au boulot? Peut-être alors que son cousin, le quiet firing, ou le renvoi par l'usure, vous sonne aussi une cloche. Maintenant, c'est l'heure de se familiariser avec le troisième volet de cette saga silencieuse qui fait somme toute beaucoup de bruit, le quiet promoting. Monter dans l'échelle hiérarchique d'une entreprise est une ambition plutôt normale pour un ou une professionnelle. Et si la promotion n'était pas matière à célébration? Et si les responsabilités que vous accumuliez ne se reflétaient tout simplement pas dans votre relevé de paie? C'est le cas de ceux et celles qui ont été promus silencieusement. Les signes d'une promotion silencieuse. Si vous avez été promu, bonne nouvelle, on croit que vous avez les compétences et les capacités d'exercer des tâches correspondant à un niveau supérieur, mais la mauvaise nouvelle vous laissera sur votre faim. La promotion n'est associée à aucun nouveau titre de poste et encore moins à une augmentation de salaire. Sur TikTok, des centaines d'employés ont partagé leur expérience avec la promotion silencieuse via le hashtag QuietPromoting. Voici comment identifier si vous avez eu droit à ce cadeau empoisonné, en phase sur empoisonné, qu'est la Quiet Promotion. Votre collègue quitte son emploi et vous absorbez une partie ou l'entièreté de sa charge de travail. Vous prenez plus de responsabilités que vos collègues qui détiennent pourtant le même poste que vous. Plus d'heures ou de travail vous sont demandées, mais d'une manière manipulatrice. Refuser une charge de travail peut être utilisée contre vous, sans toutefois que ce soit explicite. Vous effectuez constamment des responsabilités hors de votre description d'emploi pour une longue durée. Après la promotion? Bon, après mûre réflexion, vous vous rendez à l'évidence. Vous faites partie des malchanceux malchanceuses qui ont eu droit à cette insidieuse promotion. Que pouvez-vous faire? Premièrement, il faut tout de suite se demander quoi éviter à tout prix. À ça, on peut répondre ne rien dire, encaisser, attendre ou encore se comparer et se plaindre à ses collègues. La stratégie préférable, c'est surtout de se pencher sur les nouvelles responsabilités obtenues et se demander si on est réellement prêt ou prête à les accomplir. Si oui, préparez votre cas. Faites la liste factuelle et concrète de ce que vous avez effectué au-delà de vos tâches normales et des compétences que vous avez ainsi acquises. Prenez ensuite un rendez-vous formel avec votre supérieur pour lui expliquer les raisons qui justifient une vraie promotion, une promotion bruyante, une promotion qui se verra sur votre CV et votre compte en banque. Le droit à la reconnaissance. 78 % d'employés américains-américaines auraient reçu une promotion silencieuse selon les résultats d'un sondage de JobSage mené en automne 2022 et 57 % ont senti qu'on prenait ainsi avantage d'eux ou d'elles. Ce sont par ailleurs les employés des secteurs des arts et du design, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'éducation et du gouvernement qui sont les plus susceptibles de recevoir des promotions silencieuses. Au Québec, le phénomène est moins connu, mais la pénurie de main-d'œuvre la rend assurément tout aussi possible. Être reconnu adéquatement et justement pour le travail qu'on accomplit, c'est le strict minimum de la part de son employeur-employeuse. Assurez-vous donc que ce droit soit honoré. » C'était Quiet Promoting, quand le salaire ne suit plus la charge de travail. Un texte de Ariane Dupuis, paru le 13 février 2023 dans Urbania.
Ce qui nous définit. Émilie Penneau défriche ce qui se passe côté culture sur la Côte-Nord. Un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 dans le magazine Nouveau projet. Jadis prisée pour ses pêches abondantes puis pour la pureté de ses eaux, la région se retrouve aujourd'hui dans un rôle d'incubateur culturel qui lui sied à merveille. D'autant qu'il y a ici quelque chose d'intangible et de pourtant essentiel au processus créatif, l'espace. Avec ses 236 665 km², la Côte-Nord est en pleine effervescence culturelle et artistique. De plus en plus de centres d'art côtoient les usines, les alumineries, les centres d'aventure sur la Nitassinan, les plages où l'on ramasse les clames. Ainsi, Tête à la baleine accueille depuis peu Glaise Bleu, un organisme cousin de Panache Art Actuel, centre d'art autogéré et nomade, pionnier du genre dans la région, l'atelier de la 8e île, basé à Longue-Pointe de Mingan, offre quant à lui un lieu de recherche, de création, de production, de diffusion et de médiation culturelle en art multidisciplinaire. Les trois entités sont nées d'une volonté de stimuler l'intérêt des nord-côtiers-côtières pour l'art, mais aussi de protéger et de partager la culture locale. Ce qu'on souhaitait créer avec Glaise Bleu, c'est une occasion de valoriser l'immense potentiel de création de la Basse-Côte-Nord avec des activités culturelles qui rassemblent, qui sont ancrées dans les communautés et dans le territoire, indique Frédéric Lévesque, directrice et cofondatrice du centre. La sélection des dossiers se fait autour de thématiques liées au territoire. En 2021, Catherine Arsenault, qui a étudié les eaux du Saint-Laurent dans le cadre de projets de résidence avec Panache, a vu son animation « Débâcle » se tailler une place de choix dans plusieurs festivals, de Saguenay à Copenhague, en passant par Saint-Jean de Terre-Neuve et Orlando. Certaines créateurs-créatrices ont pour leur part proposé des œuvres collaboratives qui ont permis de développer des liens entre les communautés. C'est le cas de l'artiste et commissaire Joanne Roussy, qui pilote les Utopies nordiques depuis quelques années. Accueillant des artistes de différents horizons, tels Alexandre Saint-Onge et Joséphine Bacon, ce projet multidisciplinaire donne la parole aux femmes, aux Inuits et aux enfants de travailleurs-travailleuses d'usines venus s'établir dans la région. Aujourd'hui, c'est l'art qui attire professionnels et créateurs-créatrices émergents-émergentes, habitants-habitantes et nouvelles entreprises et qui assure une certaine rétention de la jeunesse. Les nord-côtiers-côtières en sont conscientes et c'est pourquoi la population, les municipalités et certaines entreprises mettent la main à la pâte pour soutenir les innovations culturelles. De plus en plus, les autres secteurs réalisent l'importance de la culture pour leur propre sphère d'activité. Plus on l'enseigne tôt, plus le sentiment d'appartenance devient grand et plus l'attractivité du territoire se construit. La culture, c'est exponentiel, soutient Marie-Hélène Baudry, agente de développement à Culture Côte-Nord. Depuis 5 ans, se trame un projet d'enseignement du cinéma à Baie-Comeau, l'une des villes les plus industrialisées de la province. Dans une petite polyvalente d'à peine 500 élèves, les jeunes vont et viennent. Depuis les balbutiements du programme, les cohortes se multiplient et s'exportent, allant jusqu'à Paris pour réaliser des kinos. On y produit des courts-métrages, on y échange entre passionnés, on écrit, tourne, monte, visionne. Du 17 au 21 mai 2023, auront lieu les premières rencontres provinciales de cinéma entièrement consacrées aux moins de 18 ans. Pendant quelques jours, la ville accueillera des jeunes de partout dans la province. C'était « Ce qui nous définit ». Émilie Penneau défriche ce qui se passe côté culture sur la Côte-Nord. Un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet. Vitalité. Mélanie Gagné nous fait découvrir la vitalité culturelle d'Albertville, un petit village au Bas-Saint-Laurent. Un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022, dans le magazine Nouveau Projet. Ce village, qui surplombe toute la Matapédia, semble suspendu au-dessus des montagnes. Environ 230 âmes y vivent aujourd'hui, dont Xavier Sénéchal, l'homme orchestre de la scène artistique locale. Il est né à Albertville et, comme la plupart des jeunes, il est parti pour étudier. Un diplôme d'études en architecture et quelques années dans les grands centres plus tard, il est revenu vivre dans son village natal avec sa blonde. C'est là qu'il est devenu Gaze, artiste bruitiste, patenteux de pédales d'effet, fondateur du studio sonore Urubu, bénévole à la bibliothèque locale et président du comité de développement d'Albertville. L'implication, c'est dans ses tripes. Il est à la base de la vitalité et de la singularité de la localité, affirme Pascal Saint-Amand, conseiller en développement culturel pour la MRC de la Matapédia. Pour Xavier, le développement peut prendre plusieurs formes. Accueillir un groupe de jazz expérimental qui attire 60 personnes pour moi, c'est du développement. Embellir le village avec un projet de mural pour notre édifice municipal, c'est aussi du développement. La murale en question a été créée par le photographe et artiste montréalais Carlos Oliva à la suite d'un appel d'offres. Avec ses couleurs vives, ses végétaux et ses cours d'eau, l'œuvre fait écho aux richesses naturelles du coin. Le muraliste a tellement aimé son expérience de création à Albertville qu'il a fini par s'y acheter une maison. D'autres artistes ont été accueillis à l'église qui trône au milieu de la place. Comme l'ancien magasin général des Grenons, le lieu a conservé sa vocation, mais la fabrique permet également aux artistes d'y créer et d'y présenter des spectacles. Xavier reçoit maintenant des appels de créateurs-créatrices de Montréal qui veulent venir y faire leur tour, notamment pour faire de l'art performance. Quand on marche sur la rue, il est donc tout naturel d'entendre des bribes de musique s'échapper du bâtiment. Albertville est entourée de forêts, majoritairement composées de conifères. À vol d'oiseau, le lac Matalik, le lac Amadou, le lac Indien et les autres se révéleraient au regard comme des yeux brillants. Le territoire est un immense garde-manger local où l'on peut pêcher, chasser, cueillir des plantes et récolter des champignons sauvages. Le village a également son jardin communautaire et ses arbres fruitiers, ce qui lui a valu le titre de municipalité nourricière en 2018. C'est peut-être l'aspect brut du lieu, son authenticité qui plaît autant. Xavier, lui, n'affirmera jamais qu'il vit dans le plus beau village. Il veut embellir son environnement, bien accueillir les visiteurs-visiteuses, mais il refuse de se lancer dans une entreprise de grande séduction. Dans les années 1960, après 40 ans d'existence, ce village était menacé de fermeture par le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Xavier en a entendu parler par sa grand-mère, mais, insiste-t-il, ce n'est plus un sujet d'actualité. Notre comité de développement discute souvent avec le maire. On ne parle plus de dévitalisation, on parle de vitalité. C'était « Créer la vitalité ». Mélanie Gagné nous fait découvrir la vitalité culturelle d'Albertville, un petit village au Bas-Saint-Laurent. Un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 dans le magazine « Nouveaux projets ». Comme au café. Soya, amande, avoine, riz et plus encore. Les substituts laitiers se multiplient. Voyez lesquels nos experts recommandent pour votre latté. Un texte de Florence Dujoux, journaliste, et Capucine Cloutier, chargée de projet, paru en janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous. Que ce soit en raison d'une intolérance au lactose, d'une alimentation végane ou de préoccupations environnementales, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers les boissons végétales. Au Canada, leur vente au détail représentait environ 385 millions de dollars américains en 2021, soit 13 % du marché du lait et de ses substituts, et affichait une croissance de 35 % en 5 ans, selon les données d'Euromonitor International. Quel substitut au lait de vache privilégié dans votre latté pour vous assurer d'obtenir la mousse généreuse, la texture onctueuse et le goût délicat que vous recherchez? Pour vous aider à trouver un bon produit, nous avons demandé à 3 experts de déguster à l'aveugle 20 boissons végétales non aromatisées, vendues de 1,72 $ à 6,34 $ le litre. Notre sélection compte 7 variétés à l'amande, 6 à l'avoine, 5 au soya et 2 au riz. Plusieurs d'entre elles sont des produits barista, une mention censée indiquer une boisson facile à faire mousser. Les résultats de notre enquête démontrent que les performances des boissons végétales sont hétérogènes, avec des notes variant du simple au double, soit de 43 à 86 %. Les boissons de soya occupent les 3 premières marches du classement, grâce à leur belle mousse et à leur goût légèrement sucré. Elles sont suivies par 3 boissons d'avoine qui se démarquent par leur texture homogène et leur saveur céréalière. Avantageuses, les boissons barista. En moyenne, les boissons végétales barista que nous avons évaluées reviennent à 5,59 $ le litre, alors que les boissons qui n'affichent pas cette allégation coûtent 3,55 $. Vaut-il la peine de payer plus cher pour une version barista? En général, oui, mais pas toujours. À l'exception de la boisson Kirkland Signature, tous les meilleurs choix portent cette mention. Cela dit, des boissons barista à base d'amandes des marques Silk et VJ Hall ont donné des résultats moyens, Idem pour la boisson d'avoine d'Oat Canada. L'importance de la mousse. Les amateurs le savent, la clé d'un bon latté repose sur sa micro-mousse, c'est-à-dire la multitude de petites bulles réparties de façon homogène dans le café. Difficile à obtenir, elle est plus ou moins stable et abondante selon la boisson végétale utilisée. Lamia Lossine, chercheuse scientifique pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, explique que les protéines sont les principales responsables de la mousse. Puisque ce sont les boissons de soya qui en contiennent le plus, elles moussent en général mieux que les autres. Parmi nos recommandations, Earth On So Nice Barista Soya et Pacific Foods Barista Original Soya produisent une mousse particulièrement généreuse et onctueuse. Pourquoi d'autres types de boissons végétales moussent-ils bien, malgré une faible teneur en protéines? Selon la chercheuse, l'ajout d'additifs, notamment les gommes, favorise la formation et la stabilisation de la mousse. La Silk Barista Avoine contient de la gomme arabique et de la gomme gélane qui lui permettent de bien mousser en dépit de son 1 g de protéines par tasse. Une question de goût. Si les résultats de la dégustation sont liés au café utilisé, le mélange Zab, Joyeux Roger, dans le cadre de notre test, il est indéniable que toutes les boissons végétales donnent un petit goût au latté. Le plus discret est celui de l'avoine, dont la subtile saveur céréalière est très bien notée par nos experts. Les boissons de soya sont appréciées pour leur goût équilibré et légèrement sucré. En revanche, les boissons d'amande au goût de noix assez prononcé sont perçues comme très sucrées. Quant aux boissons de riz, elles sont critiquées pour leur absence de texture et de goût. Quel que soit le type de boisson végétale concernée, les produits portant la mention « non sucré » obtiennent des notes de dégustation moyenne à mauvaise. Les experts leur reprochent un goût sec, sans onctuosité et fort. Vous écoutez présentement un latté comme au café, soya, amandes, avoine, riz et plus encore. Les substituts laitiers se multiplient. Voyez lesquels nos experts recommandent pour votre latté. Un texte de Florence Dujoux, journaliste, et Capucine Cloutier, chargée de projet, paru en janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous. Les caractéristiques nutritionnelles à rechercher. Ne vous privez pas de consommer occasionnellement votre boisson végétale préférée, lance Amélie Charret, nutritionniste et coordonnatrice de la chaire de nutrition de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, INAF, de l'Université Laval. Vous devriez toutefois y regarder de plus près si vous cherchez à remplacer les produits laitiers au quotidien. Vous avez besoin de protéines, de calcium, de zinc et d'un cocktail de vitamines pour éviter les carences à long terme. Sans compter qu'il vous faut limiter la consommation de boissons ultra sucrées. D'un point de vue nutritionnel, toutes les options végétales ne se valent pas. La boisson de soya est un bon substitut au lait, estime la nutritionniste, citant sa teneur élevée en protéines et en acides aminés essentiels. Comme il est mentionné dans le Guide alimentaire canadien, les boissons de soya enrichies en vitamines et minéraux et sans sucre ajouté s'imposent comme les meilleurs choix nutritionnels. C'est le cas du Kirkland Signature Original Soya, qui est le produit de notre test préféré de la nutritionniste. Que faire si vous êtes allergique au soya ou si vous n'appréciez pas son goût? La boisson d'avoine est un bon compromis, ajoute Amélie Charret. Parmi les variétés testées, le Veggie All Barista Avoine est la plus intéressante sur le plan nutritionnel, avec ses 3 g de protéines et ses 7 g de sucre, mais, faute d'être enrichie, elle ne sera pas aussi nutritive que le lait. Des produits très transformés. Bien que les boissons végétales bénéficient d'une image santé, Elles contiennent plusieurs additifs visant à optimiser leur fonctionnalité, entre autres des gommes, des agents de conservation et des exhausteurs de goût. Les additifs alimentaires autorisés par Santé Canada ne sont pas considérés comme nocifs à petite dose. Toutefois, certains suscitent la polémique, comme le carrageenane, un additif naturel à base d'algues rouges qui pourrait présenter des risques cancérigènes lorsqu'il est dégradé. Les produits testés des marques Art's Own et Califia Farms, ainsi que Silk Original Avoine, portent la mention sans carrageenane. Et la planète? Selon une étude internationale de l'Université d'Oxford publiée en 2018, l'empreinte environnementale des boissons végétales est moins élevée que celle du lait de vache. Tout en haut du podium, les variétés faites de soya et d'avoine qui utilisent le moins d'eau et de terre et qui émettent aussi le moins de gaz à effet de serre, GES. Les fabricants de boissons végétales affichent différentes certifications sur leurs emballages. La plus commune, Projet sans OGM vérifié, permet d'identifier les produits sans organismes génétiquement modifiés. Quant à la certification Biologique Canada, elle atteste que la boisson végétale est conforme aux normes biologiques canadiennes. Un produit biologique est certifié sans OGM, mais l'inverse n'est pas vrai. Pour en savoir plus, consultez le décodeur de Protégez-vous, pv.ca/decodeur.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.usevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Nicolas Zartman et Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.